Bonjour, bienvenue, nous sommes toujours en direct sur l'antenne de Graphite. C'est la rentrée, j'ai perdu tous mes repères avec tous ces boutons et ce studio pour lequel je ne me suis pas toujours habitué, en fait, malheureusement. Mais je suis très heureux de vous retrouver pour cette rentrée, cette nouvelle saison sur Graphite Biotine, tous les samedis entre 12h et 13h pour parler de l'actualité scientifique. Nous allons nous arrêter un petit peu sur ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, sur des sujets qui nous concernent de façon plus ou moins proche, on va dire. Et c'est là encore le leitmotiv de cette émission pendant toute cette saison qui s'ouvre. Nous sommes en direct, il est 12h, presque 2 minutes. Bon appétit si vous êtes à table. Je suis très heureux de vous retrouver. Je m'appelle Jean-Noël. Il va falloir que je reprenne un peu tous mes repères parce que je vous avais quitté courant juin. Ça démarre bien. Je sais pas, je suis pas dedans en fait. Je sais pas ce qui se passe. J'ai encore un peu de sable dans les oreilles, c'est peut-être ça. C'est la reprise pour l'ensemble des émissions de Graphite d'ailleurs. On reprend tout doucement et l'actualité au niveau de Graphite, ça démarre déjà ce week-end parce qu'il y a le grand rendez-vous du bord de l'eau. C'est le festival de rentrée qui a lieu jusqu'à demain. C'est sur les Bordeloises à Margny et Compiègne. Graphite est partenaire, donc du coup, n'hésitez pas à vous renseigner sur le festival au bord de l'eau, bien sûr. Dès la rentrée, déjà, hop, ça démarre avec Graphite. On ne vous lâchera jamais, bien sûr, sur cette radio curieuse. Comme nous sommes en direct, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'envoyer des SMS 06 95 065 026. 06 95 065 026, si vous souhaitez réagir sur l'actualité. Il faut dire que pendant cet été, l'actualité a été quand même assez chaude au sens propre du terme, bien évidemment, avec quand même des conditions météorologiques assez particulières. Donc on reviendra un petit peu sur ce qui s'est passé pendant cet été. L'actualité scientifique, c'est une actualité spatiale aujourd'hui, avec la Lune qui revient maintenant sur le devant de la scène. On avait un peu quitté la Lune et en fait non, c'est vraiment une actualité. Et comme je vous l'ai dit, mais depuis des mois et des mois, cette décennie 2020 va être une décennie géniale au niveau spatial. Et dès début septembre, ça démarre. Donc, on parlera de ça, bien évidemment, dans cette émission. Et puis, voilà, il y a quelques sujets qui ont été évoqués pendant cet été. On va parler des incendies, bien sûr. On va parler pour savoir si on pourrait avoir de l'huile de friture comme carburant. Apparemment, c'est une proposition qui a l'air d'être sérieuse. On verra ça, bien sûr. On fera un point sur le Covid. Comme je vous l'avais dit il y a quelques mois, et puis même au début de cette épidémie en 2020, la science apportera des réponses, mais il faut prendre le temps, en fait. Il y a un temps scientifique qui n'est pas nécessairement le temps de notre société, et l'inadéquation entre les deux crée parfois quelques problèmes. On commence à avoir aujourd'hui un retour sur ce Covid, et il y a deux sujets qu'on évoquera dans cette émission. On parlera, si on a le temps, de la Coupe du Monde de football, parce que la technologie sera très présente, bien sûr. Et puis on évoquera également Fukushima, on évoquera aussi d'autres activités un petit peu pertinentes. J'espère qu'on aura le temps, puis il y aura bien sûr un peu de musique dans cette émission. Voilà, nous sommes aujourd'hui donc le 3 septembre et au niveau de l'éphémérite du 3 septembre, c'est en 1928 qu'Alexander Fleming découvre la pénicilline. Donc ça va faire bientôt 100 ans, c'était un 3 septembre. Et au niveau des naissances et des décès, c'est toujours intéressant d'évoquer un petit peu les parcours de scientifiques qui dans le passé ont apporté des choses au niveau de la recherche scientifique, médicale, technologique. Naissance un 3 septembre 1728 de Matthew Boulton ou Boulton, alors je sais pas, c'est un industriel britannique, donc on va l'appeler Boulton. Industriel, il était également associé d'un ingénieur écossais James Watt. W-A-T, ça nous dit quelque chose. Effectivement, dans le dernier quart du 18e siècle, eh bien, tous deux installent des centaines de machines à vapeur. Des machines à vapeur qu'on va appeler Boulton et Watt, dont les performances rendent possible la mécanisation, bien sûr, de l'industrie. Et Boulton, il applique des techniques modernes à la frappe des pièces de monnaie, notamment. Il réalise des millions de pièces pour le Royaume-Uni et d'autres pays. Alors, Boulton, il n'avait jamais eu aucune éducation formelle en sciences. C'est voilà, ça lui est venu comme ça, donc il n'avait pas nécessairement un environnement familial qui était propice à lui susciter un petit peu la curiosité scientifique. Et on dit de lui que justement c'est la preuve d'une grande connaissance scientifique qui peut être obtenue sans études régulières, grâce à une compréhension juste et rapide, beaucoup d'applications pratiques et une bonne intuition mécanique. Il avait des notions très correctes dans plusieurs branches de philosophie naturelle. Il était un maître dans tous les arts métalliques. Il connaissait toute la chimie en lien avec les objets de ces diverses manufactures qu'il avait. L'électricité et l'astronomie étaient à un moment parmi ses passe-temps favoris. C'était un petit peu un touche-à-tout. Matthew Boulton, qui est donc né un 3 septembre 1728. Il est mort en 1809. Décès le 3 septembre 1950 de Traian Vuia. C'est un inventeur roumain qui est l'un des pionniers de l'aviation. En 1906, il réalise un vol mécanique avec un appareil plus lourd que l'air qui était autopropulsé par un moteur à combustion interne. C'est une véritable prouesse technique à l'époque en 1906. Ce fut le premier vol d'un tel appareil connu par le public de l'époque, notamment grâce à la presse, des articles qui étaient parus dans plusieurs journaux et des magazines. Et Clément Ader, lui, il avait tenté de décoller un peu avant, évidemment. Lui, il a réussi en 1906. Et donc du coup c'est en fait un nom qu'on ne connaît pas dans le domaine de l'aviation. Traian Vuia, il est décédé le 3 septembre 1950 à Bucarest. Voilà pour l'éphéméride de ce 3 septembre. Alors comme je vous le disais, aujourd'hui l'actualité c'est aujourd'hui même Artemis, cette mission Artemis avec la Lune qui revient sur le devant de la scène. Alors la question c'est un petit peu de savoir à quoi ça sert précisément, qu'est-ce qu'on prévoit de faire avec cette mission. Ça a lieu cet après-midi, ça a été reporté plusieurs fois dans la semaine. Alors je pensais pour cette émission d'aujourd'hui de faire un peu le point sur ce qui s'est passé, en fait non, parce que ça aura lieu en fin de journée. Alors, il faut que je retrouve, je vous dis, j'étais pas du tout prêt, il faut que je retrouve mes feuilles. C'est une mission qui est à la fois récente dans l'actualité, enfin en tout cas dans l'histoire du spatial, mais en tout cas ça a été initié sous la présidence de Barack Obama. On est en 2010, il avait dévoilé un plan pour conquérir Mars d'ici cette décennie 2030, et il y avait donc une volonté des États-Unis d'envoyer des humains sur Mars, et cette volonté a été renforcée également par la présidence suivante de Donald Trump, qui lui avait souhaité avancer à 2024, donc dans 2 ans, c'est assez récent, c'est assez proche la date du retour sur la Lune pour permettre d'envoyer une première mission habitée sur Mars dès 2033. C'est-à-dire qu'on commençait à avoir des dates un petit peu plus précises. Ce sont des objectifs qui sont assez élevés, mais en fait, les professionnels du secteur sont conscients de ces objectifs peut-être un petit peu trop ambitieux. Il n'empêche que cela donne un petit peu un attrait et un enthousiasme pour accélérer un petit peu le rythme de travail. C'est ambitieux, ça permet de se donner un calendrier, ça donne une cadence. C'est ce qu'explique dans un article de Futura Nicolas Maubert, qui est conseiller espace et qui travaille notamment au CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Alors, tout l'intérêt du programme Artemis, ça vise à donc retourner sur la Lune pour la première fois depuis 1972, donc depuis 50 ans. Et ça doit en fait servir à préparer une première mission à destination de Mars. Les Américains, ils ne veulent pas refaire un petit peu un remake d'Apollo. Ils veulent retourner sur la Lune pour s'y installer de façon pérenne et pour pouvoir préparer les premières expéditions humaines à destination de Mars. C'est en tout cas ce qu'on justifie au niveau de ce programme Artemis. Néanmoins, c'est quand même une étape à franchir assez ambitieuse. Ça reste assez énorme. C'est ce qu'explique Nicolas Maubert. Alors pour vérifier que ce programme et les synergies attendues entre le fait d'explorer la Lune et d'explorer Mars, et bien que tout ça, ces synergies seront suffisantes et qu'on aura assez d'éléments pour pouvoir se dire ce que l'on fait sur la Lune, on pourra le faire sur Mars. C'est pas aussi simple que ça. Il y a un groupe de travail, bien sûr, qui s'est constitué pour pouvoir regrouper à la fois des industriels, des scientifiques, des représentants d'institutions qui vont tous être concernés justement par cette exploration humaine de la Lune et de Mars. Et donc ce groupe de travail, il va donner des avis, émettre un petit peu des recommandations. recommandations. La finalité, c'est de pouvoir un petit peu réduire les risques techniques et de pouvoir affiner, bien sûr, le calendrier de toutes ces missions humaines qui sont attendues, notamment sur Mars. Et donc, chaque année, ce groupe de travail fait le point sur les perspectives d'une mission habitée sur Mars. Et les partenariats internationaux également sont encouragés, bien sûr. Il y a également un petit peu des débats et des échanges pour essayer d'affiner les orientations et les stratégies futures. Donc, il y a cette mission Artemis qui est mise en place. La NASA présente un petit peu cette mission comme totalement fondamentale, bien sûr, pour pouvoir préparer la première expédition martienne. Parce que la difficulté, on l'a déjà évoqué, pour aller sur Mars... Pour revenir en sécurité, eh bien, il va falloir développer des technologies clés, essentielles bien évidemment, qui aujourd'hui ne sont pas encore totalement performantes. Et il y a des exigences opérationnelles qui nécessitent en fait une démonstration dans l'espace. Et donc du coup, on s'est dit, on va pouvoir essayer de faire un essai, un test, entre guillemets, sur la Lune, pour pouvoir engager ensuite une mission d'exploration humaine de longue durée sur Mars. C'est tout l'intérêt, bien sûr. Alors, dans son dernier rapport de ce fameux groupe de travail, rapport qui a été rendu public il y a quelques jours, eh bien, ce groupe estime que, je cite, le programme Artemis d'exploration lunaire peut aider à préparer des missions humaines sur Mars, mais lui seul ne suffit pas. Le simple fait d'avoir des humains à la surface de la Lune qui vont faire leur travail, qui vont explorer, qui vont travailler d'un point de vue scientifique, eh bien, ce n'est pas suffisant. Et il y a certains aspects de l'environnement de la Lune qui sont représentatifs de certains endroits de l'espace, et notamment de Mars, mais ce n'est pas totalement la même chose. On allait dire bien évidemment, bien sûr. Et donc, du coup, ça va donner des premières indications. On va pouvoir engager certains protocoles scientifiques qu'on va pouvoir affiner, qu'on va pouvoir essayer d'améliorer, bien sûr. Mais pour l'instant, on est quand même sur quelque chose d'assez ambitieux. À la rigueur, tant mieux, bien sûr, parce que ça nous permet de pouvoir se projeter. Mais voilà, on est en tout cas un petit peu sur l'expectative parce qu'on veut voir ce que ça donne cette mission sur Mars. Avec l'autre point, c'est que le fait d'aller sur la Lune, quelque part c'est à côté, entre guillemets bien évidemment, aller sur Mars c'est déjà autre chose. Donc il va falloir aussi que les personnes qui vont aller sur Mars soient conscientes d'un éloignement, mais d'un éloignement peut-être pas définitif, mais en tout cas quand même assez long, bien sûr. Donc il y a toute une partie à la fois technologique, scientifique, qu'il va falloir affiner. Et puis, il y a aussi quand même le fait que ce sont des humains, donc avec une psychologie également particulière à chacun, qu'il va falloir prendre en considération. Bref, il y a cette mission Artemis qui va être lancée. Elle devait être lancée depuis quelques jours. Et donc, du coup, on a appris, j'ai l'heure précise, parce que ça peut être retransmis sur Internet ou sur certaines chaînes d'information. C'est ce soir à 20h17, heure de Paris, que une fenêtre de tir va pouvoir s'ouvrir. Et donc ça, normalement, en tout cas je n'ai pas eu d'informations contraires ce matin, ça devrait avoir lieu cet après-midi pour le décollage de cette méga fusée de la NASA vers la Lune. Donc je vous conseille bien sûr de regarder, c'est toujours fascinant, 50 ans après on y retourne. Et ce qu'on apprend en fait dans cette parce qu'il y a pas mal d'articles tout au long de la semaine qui ont évoqué cette mission Artemis, on a appris qu'il y avait des passagers un petit peu spéciaux, on va dire, qu'on a mis à l'intérieur de cette fusée. Alors je ne savais pas du tout, on a mis des mannequins, en fait, à l'intérieur. Et du coup, l'idée, c'était d'essayer, comme je vous disais, de mieux connaître le ressenti des astronautes. Et donc, dans le vaisseau, il y aura 3 mannequins qui vont être équipés de nombreux capteurs pour pouvoir mieux protéger par la suite les astronautes quand il y aura la mission Artemis 2. Alors, il y a un premier mannequin qui est le seul à être complet. Hein. Les autres, ils sont dépourvus de membres. Hein. C'est juste un peu des capteurs qu'on a mis. Mais il y a un autre qui est un vrai mannequin. Il est équipé d'une combinaison de survie qui équipera par la suite les astronautes de cette mission, notamment pendant les phases critiques du vol dans le vaisseau. Et donc, du coup, il y a des nombreux capteurs, dont des capteurs de radiation, parce que déjà, lors des vols Apollo, les astronautes étaient soumis à des radiations qui étaient liées au vent solaire ou aux rayons cosmiques. Et c'est la raison pour laquelle les missions étaient de courte durée. Donc là, comme on est sur l'objectif d'aller sur Mars, donc sur des missions de longue durée, eh bien, il va falloir essayer d'avoir des informations précises parce qu'évidemment, on ne peut pas se permettre d'être dans l'aléatoire, bien évidemment. Les deux autres mannequins sont équipés de 5600 capteurs passifs et notamment des capteurs de radiation également pour les autres mannequins. Ils sont bourrés de capteurs. On va pouvoir analyser, recueillir toutes ces données, de pouvoir ensuite les exploiter et analyser tout ça. Et il y a également des dosimètres qui sont mis à l'intérieur. Donc voilà, il y a des mannequins qu'on a mis à l'intérieur de cette fusée qui décolle ce soir. Je vous conseille bien sûr de suivre ça. Voilà, c'était l'actualité de ce samedi au niveau spatial. On écoute un peu de musique et puis on continue à feuilleter l'actualité scientifique et on reviendra un petit peu sur ce qui s'est passé tout au long de cet été. À tout de suite sur l'antenne de Graphite. Black Pumas sur l'antenne de Graphite avec Black Cat. Vous écoutez Graphite 94.9 sur la bande FM. Graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet en direct ou en différé. Bien sûr, toute l'actualité de Graphite sur Facebook et toute l'actualité scientifique, c'est lié à cet été et notamment ces incendies. Et on a quand même peut-être tous une image un petit peu de ces pyromanes où on se dit ils ont un petit peu des pulsions incontrôlables et ils allument un feu. Il y a une espèce de désir quasi charnel vis-à-vis des flammes, c'est un petit peu, je sais pas, dans notre inconscient, on a toujours cette image-là. En fait, ce genre de, comment dire, d'archétype n'existe pas. C'est un mythe construit de toutes pièces parce que la plupart des incendiaires ne remplissent pas ces critères diagnostiques de la pyromanie. Il y a une docteure en psychologie qui s'appelle Julie Palix qui est spécialisée en psychologie légale au centre hospitalier universitaire de Lausanne, et elle explique en fait qu'il faut revenir un petit peu sur les termes. Il y a une différence nette entre allumer un feu, un incendie criminel et la pyromanie. Il y a eu plusieurs articles en fait qui existent depuis plusieurs années parce qu'on s'est un petit peu intéressé sur le profil et le pourquoi de ces pyromanes, quel est l'élément déclencheur, et plusieurs articles avaient été rédigés pendant la décennie qui vient de passer. Et en fait, on revoit depuis quelques jours, suite à ces incendies catastrophiques en France qui ont été pour certains à l'origine dus à un pyromane, on retrouve ces articles et on essaye d'en faire une analyse. On peut allumer un feu sans être un incendiaire ou être un incendiaire sans être pyromane, nous explique-t-elle. C'est-à-dire que c'est un petit peu plus compliqué et c'est pour ça aussi que c'est peut-être beaucoup plus difficile à identifier. D'après une étude finlandaise qui fait vraiment référence dans ce domaine, parmi 90 incendiaires récidivistes, il y en avait seulement 3 qui répondaient aux critères diagnostiques de la pyromanie. À l'époque, cette étude, qui date de quelques années, elle suggérait de réinterroger l'absence de consommation de substances comme un critère incluant au diagnostic. C'est-à-dire que quelque part, on s'était dit que c'est pas nécessairement le fait qu'ils avaient consommé certaines choses qui pouvaient un petit peu dénaturer leur conscience. C'est beaucoup plus complexe que cela. Il y a différents articles qui reviennent sur ces troubles psychiatriques. Et en fait, ce qu'on en déduit de ces différents articles, c'est qu'il n'y a pas de profil type, en fait. Et qu'on peut avoir une vraie difficulté pour pouvoir identifier clairement le profil type et donc de pouvoir faire un peu de la prévention, bien évidemment, dans ce domaine. En règle générale, le pyromane récidiviste n'est pas impulsif. Son acte s'intègre dans une routine et il est généralement très contrôlé. La plupart du temps, il est intégré socialement et il est souvent un régional des faits. Ainsi, les théories qui suggèrent un espèce de désir orgasmique pour le feu, ça c'est totalement anachronique et ça a été réfuté depuis longtemps. C'est ce qu'explique justement cette psychologue Julie Palix. Et toutes ces informations, elle a essayé de faire une synthèse de l'ensemble des articles qui ont été publiés dans la revue médicale suisse. Dans la littérature, eh bien, on voit de plus en plus apparaître des thématiques autour de la criminologie environnementale. Ça se développe actuellement et ça rencontre un petit peu de tous ces actes criminels tels que les incendies volontaires. Et donc, ça devient un domaine de recherche de plus en plus développé parce que du coup, on essaye d'avoir des informations assez précises. Et aujourd'hui, on n'en sait rien. Donc, tout ce que l'on entend, en fait, sur des parcours ou des profils ou des caractères assez identifiés pour ce genre de personnes, la science nous dit que ça n'est pas le cas. Pour l'instant, on n'en sait absolument rien. Et je trouvais assez intéressant d'avoir ce genre d'article parce que, du coup, on entend tellement de choses, notamment pendant l'été, parce qu'on a un peu l'impression que les médias se mettent en vacances et que, du coup, on essaye de mettre en boucle pas mal d'informations qui ne sont pas toujours vérifiés. Cet article qui est revenu un petit peu il y a quelques jours suite à ces incendies de cet été permet un petit peu de relativiser les choses, bien évidemment. Autre information, ça concerne Fukushima. Le gouvernement japonais, il l'avait annoncé, donc c'est pas une surprise, c'était l'année dernière, on en avait d'ailleurs parlé dans cette émission, mais cette fois ça devient une réalité, ce plan de rejet des eaux contaminées de Fukushima. Ce plan de rejet vient d'être approuvé par l'autorité de sûreté nucléaire japonaise. Alors toutes ces eaux correspondent à l'eau qui avait été nécessaire pour refroidir 3 des réacteurs dont le cœur était entré en fusion lors de l'incident qui avait eu lieu à la centrale nucléaire de Fukushima. C'était le 11 mars 2011, donc il y a déjà plus d'une dizaine d'années. Et toute cette eau, ça concerne les nappes souterraines, l'injection d'eau douce également. Il y avait de l'eau de mer qui avait été était utilisé même de l'eau de pluie. Et au total, ça représente 1 300 000 tonnes d'eau. On les a stockées, bien sûr, dans des gigantesques réservoirs, tout autour de la centrale. Sauf qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, TEPCO, qui est le producteur japonais d'électricité, c'est un petit peu leur EDF à eux, cette entreprise prévoit de filtrer l'eau contaminée pour éliminer un petit peu tous les éléments nocifs, à l'exception du tritium, qui lui est difficile à éliminer. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Eh bien, ce tritium, on va essayer de le diluer avant de le relâcher dans l'eau. C'est-à-dire qu'il est toujours présent, hein. Mais on va le diluer, c'est d'ailleurs comme s'il y en aurait un petit peu moins. Ce qui est totalement faux, bien évidemment. Et une grande partie de l'eau a déjà été en majorité décontaminée, notamment grâce à un processus assez innovant. Il n'empêche que on va rejeter cette eau qui a été décontaminée et on va rejeter cette eau sur 4 décennies. Donc on va ouvrir un robinet tout petit, voilà, comme ça, et pendant 40 ans, on va déverser de l'eau, toujours dans cette idée de pouvoir limiter la concentration en tritium, comme je vous l'ai dit. Donc on ne va pas tout déverser d'un coup, on va faire petit à petit, bien sûr. Ce projet est en pleine conformité, nous dit-on, avec les normes internationales et ne va pas causer, je cite, aucun dommage dans l'environnement. Bah alors si on nous le dit, c'est que ça doit être vrai, bien sûr. Ça va débuter dès 2023, donc la décision a été prise l'année dernière et le plan a été approuvé il y a quelques jours. Et donc du coup, dès 2023, donc c'est dans quelques semaines bien sûr, on va pouvoir débuter ce projet après la construction d'un conduit sous-marin d'un kilomètre de long. Hein, on va faire un petit espèce de petit tunnel d'un kilomètre qui va emmener cette eau directement un petit peu loin des côtes. Hein. À un kilomètre, hein, mais ça sera loin des côtes, bien sûr. C'est une opération qui devient urgente parce que environ 140 mètres cubes d'eau contaminée sont produits chaque jour sur le site, parce que évidemment, rien n'est figé, bien sûr. Alors, malgré tout, la décision d'évacuer ces eaux par la mer, ça reste bien sûr critique, non seulement par les voisins directs du Japon, on pense à la Chine, on pense à la Corée du Sud, mais aussi par, bien sûr, tous les pêcheurs locaux qui craignent une chute de leur vente, bien sûr, et la décision de passer par cette voie avait été privilégiée plutôt que le fait d'évaporer l'eau, donc de faire passer l'eau par l'air, entre guillemets. Eh bien, du coup, ça n'avait pas été retenu. Et cette décision, elle avait été déjà pratiquée lors de conditions normales de fonctionnement des centrales à moindre échelle. C'est-à-dire que quand on n'est pas dans une situation catastrophique telle que Fukushima, on avait déjà déversé un peu de l'eau. En fait, on apprend des choses comme ça d'une façon un petit peu détournée, mais on avait un peu déversé de l'eau comme ça. Là, c'est donc annoncé clairement. Et il y a une vidéo que j'ai vue cette semaine sur Internet. Je crois que c'est sur le site de Science et Avenir, il me semble, où il y a une simulation qui est faite de cette eau qui est déversée et on voit jusqu'où elle peut aller, parce qu'il faut pas se leurrer, on va donc déverser cette eau dans l'océan Pacifique, ça va pas rester à l'endroit où évidemment on va rejeter, ça va se diluer, et donc on voit très bien que cette eau qui, nous dit-on, a été décontaminée mais qui contient encore du tritium va atteindre les côtes, notamment les côtes américaines, l'Ouest américain, bien sûr. Donc, ça commence à être dans un contexte un petit peu géopolitique tendu dans cette région. Ça rajoute encore un élément assez, on dirait un petit peu anxiogène, bien sûr. Et ça rajoute également, dans un débat qui est important au niveau du nucléaire, ça rajoute des éléments qui ne sont pas nécessairement... qui ne vont pas nécessairement dans le bon sens, on va dire, parce que le sujet du nucléaire doit être un sujet qui doit être, bien sûr, abordé sur tous ses aspects. Mais une telle information qui arrive comme ça, évidemment, ça peut mener quelques crispations, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, ça a été annoncé il y a quelques jours, et ça devient officiel. On suivra, bien sûr, l'actualité de Fukushima dans les prochaines semaines. Et bien évidemment, comme je vous le dis, on aura, bien sûr, après, des études, des analyses qui seront menées. Mais enfin, le temps d'avoir... le temps d'analyser l'ensemble de ces données, on n'aura pas cela assez rapidement, bien sûr. Il est presque 12h30, on va continuer à écouter un petit peu de musique, bien sûr, et puis on va parler, allez, de quelque chose de plus gai. On va parler de la Coupe du Monde de football, avec l'intelligence artificielle qui va nous permettre de détecter les hors-jeux, paraît-il.
Marie Magdalene, look at your phone. I know that I said I can do it alone, but I lied, I just wanted to win. The war between bearing and breaking with it. Please, please, please. Don't say Jesus, save your sister. Sing me a new holy scripture, and I'll follow your song down to the river. Please, please, don't save Jesus, save your sister. Please, 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 tell the angels that I.
Moi, je vous mets un peu de musique douce. C'est vrai que ça fait du bien. En plus, à l'instant, le soleil vient de se cacher sur Compiègne. Mais on écoutait Sophie Hunger avec Maria Magdalena sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis, depuis plusieurs années, entre 12h et 13h, Biotine, l'émission d'actualité scientifique. On parle un petit peu de toute l'actualité scientifique, médicale, technologique, spatiale. Et on va aussi parler un peu de sport, bien sûr, et de la Coupe du Monde de football qui a lieu au Qatar dans quelques semaines. Et il y a, on le sait, la généralisation de ce qu'on appelle l'assistance vidéo. Il n'empêche que malgré cette assistance vidéo, le hors-jeu demeure le principal sujet de discorde dans le football. En France, en Angleterre, dans les compétitions internationales, tout se joue désormais au millimètre et les caméras sanctionnent souvent des attaquants pour une pointure de chaussure. On a tous vu ça et devant le petit écran, on découvre un petit peu les raisons du sifflet de l'arbitre, mais dans les tribunes, sur le terrain, c'est un petit peu la frustration. Et donc, le Qatar a décidé d'inaugurer une technologie qu'on appelle semi-automatisée de détection du hors-jeu. L'idée, c'est d'aider, bien sûr, les arbitres à prendre des décisions, mais de façon plus rapide et de façon cohérente sur les situations de hors-jeu. En gros, éviter un petit peu de passer par le quart régie et de perdre plusieurs minutes à décider s'il y a un hors-jeu ou pas. Alors, comment ça se met en place? Eh bien, c'est une technologie qui a été développée par une université par l'université de Victoria, qui a travaillé avec une équipe de recherche de l'école polytechnique de Zurich. Et cette technologie, elle utilise 12 caméras placées sous le toit du stade pour pouvoir suivre le ballon et aussi suivre chaque joueur. Il y a 29 points de données qui sont contrôlés 50 fois par seconde, ce qui permet de déterminer de façon exacte sur leur terrain la position de chacun. Et donc ces points de donner, ça comprend notamment les extrémités, hein, la tête, les mains, les pieds et aussi les membres qu'on va juger pertinents, notamment les bras et les jambes, pour pouvoir analyser une situation de hors-jeu. Et donc, pour aller encore plus loin, la FIFA annonce que le ballon officiel... Alors, je ne savais pas que le ballon officiel, c'est Adidas qui le fournit. Il a un nom, il s'appelle Al-Rila. Ok, donc on sait qu'il s'appelle Al-Rila, le ballon officiel. Il sera équipé, lui aussi, de capteurs. Des capteurs d'unités de mesure qui seront placés au centre du ballon et ils vont envoyer des données 500 fois par seconde à une salle de visionnage. Ça va donc permettre une détection très précise du moment exact où le ballon est joué, parce que dans le cas du hors-jeu, c'est à partir du moment où le ballon, où il y a le départ du ballon. C'est ce moment précis, en fait. Et donc, on va pouvoir l'analyser grâce au capteur qui sera présent à l'intérieur du ballon. Et donc, on va pouvoir combiner les données du ballon et des joueurs, et grâce à l'intelligence artificielle, eh bien, cette nouvelle technologie va pouvoir transmettre automatiquement une alerte de hors-jeu aux arbitres vidéo chaque fois que le ballon est reçu par un attaquant qui se trouvait en position de hors-jeu. Et donc, du coup, l'information sera instantané. Et avant d'en informer l'arbitre sur le terrain, eh bien les arbitres vidéo vont valider la décision qui est proposée par l'intelligence artificielle en vérifiant manuellement le moment de cette passe fatidique qui aura été déterminée automatiquement, ainsi que la ligne de hors-jeu qui aura été celle aussi qui aura été générée automatiquement. En fait, ils prennent des décisions, mais quelque part, la décision, elle est prise avant eux. Ce processus, bien sûr, ne prend que quelques secondes. On n'a même pas le temps de réagir, ce qui permet de prendre des décisions plus rapides, plus précises sur ces situations de hors-jeu. Et une fois la décision confirmée par les arbitres vidéo et par l'arbitre sur le terrain, ce qui a quand même encore un arbitre sur le terrain apparemment, donc oui, donc il y a bien un être humain qui sera présent sur le terrain, et bien les données utilisées pour prendre la décision sont transposées dans une animation 3D qui vont détailler précisément la position des membres des joueurs au moment où le ballon a été joué. Et donc cette animation 3D qui sera montrée sous le meilleur angle possible, eh bien, elle sera diffusée sur les écrans géants du stade, mise à la disposition des chaînes de télévision. Comme ça, tout le monde verra ce qu'il s'est passé. Et comme ça, on n'aura pas d'attente, on n'aura pas de sifflet, on n'aura pas de frustration. Tout le monde aura vu ce qu'il va se passer. Alors là, c'est un exemple concret de la technologie qui, d'un point de vue purement technique, est formidable, bien évidemment, parce qu'il y a un traitement de données assez importante. De façon quasi instantanée, on aura une information. Mais bon, après, voilà, ça, j'attends de voir ce que ça donne. Ça risque d'être assez troublant, parce que quelque part, on a le côté un petit peu de l'incertitude et de la perception humaine qui recule un peu dans ce domaine. Mais on suivra ça avec attention, bien sûr, au Qatar. Il y aura une autre information qu'on évoquera la semaine prochaine également, où la technologie prend une part de plus en plus importante dans cette Coupe du Monde. Autre information qu'on a entendue pendant cet été, c'est cette mesure qui a été adoptée en première lecture le 22 juillet dernier dans le cadre du projet de loi sur le pouvoir d'achat. C'est de remplir le carburant du moteur de sa voiture avec de l'huile de cuisson. Et à l'origine de cette proposition, c'est le chef du parti Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, qui a donc proposé cet amendement avec l'idée de donner la possibilité aux Français d'utiliser des huiles usagées comme alternative au carburant pour certains types de voitures, et notamment les anciens modèles diesel. Alors, autrement dit, on pourrait réutiliser l'huile de tournesol ou l'huile de colza usagée, la filtrer, la décanter pour pouvoir enfin la transformer en carburant. Alors actuellement, l'utilisation de ces huiles usagées reste interdite aux particuliers, et c'est précisément dans l'autorisation pour les particuliers d'utiliser cette méthode que réside tout l'enjeu de cet amendement qui avait été proposé. Alors, Julien Bayou avait donné comme argument suivant: alors que le diesel dépasse les 2 euros le litre à la pompe, cette solution permet tout à la fois de soulager immédiatement le porte-monnaie des Français et de limiter la pollution issue des moteurs diesel et de réduire la dépendance énergétique du pays. Selon le texte de cet amendement, eh bien, 10 litres d'huile alimentaire usagée pourraient générer 8 litres de carburant. Alors, c'est une information qui a qui a fait parler quand même pas mal pendant cet été, mais d'un point de vue scientifique, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement farfelu. Elle fait d'ailleurs cette proposition, l'objet d'initiatives un peu similaires qui ont été déployées ces dernières années. Par exemple, l'année dernière, la compagnie Air France avait vu décoller son premier avion doté de carburant durable d'aviation qui était composé à 20% d'huile de cuisson. Et depuis le début de cette année, les compagnies aériennes ont l'obligation d'utiliser au moins 1% de ce biocarburant. Donc ça devient maintenant une norme. Et puis il y a d'autres exemples un petit peu en France qui ont été évoqués à l'occasion de cette proposition d'amendement. Dans l'Aube, par exemple, le groupe français qui s'appelle Avril annonçait la création d'un carburant 100% composé d'huile de colza et qui était destiné à faire rouler les camions et les bus. Il y a des structures plus petites qui récupèrent par ailleurs des huiles usagées prévues à cet effet, notamment l'exemple de l'île d'Oléron, où il y a une association qui s'appelle Roule ma frite. J'aime bien ça, au moins comme ça c'est totalement parlant. Et cette association, elle récolte près de 20 000 litres d'huile alimentaire usagée, dont une grande partie vient du secteur de la restauration. Et elle est parvenue à obtenir une autorisation des douanes pour faire rouler quelques modes de transport, des camions et notamment un train touristique en Charente-Maritime. Donc voilà, il y a des exemples, on va dire, un petit peu locaux, voire anecdotiques qui sont mis en place. Et du coup, cette pratique, elle pourrait être déployée en France. Elle l'est déjà en Europe, notamment en Belgique, où environ 20% du diesel, du biodiesel, est fabriqué à partir d'huile de friture. Et notamment en Belgique, l'usage pour les particuliers est autorisé depuis longtemps. Donc voilà, peut-être qu'on rattrape en France un retard sur l'utilisation de ces huiles usagées pour le carburant des automobiles diesel. À voir, bien sûr, parce que la technologie existe. Donc là, on est plutôt sur le terrain politique, en fait, d'une décision politique, avec quelques petits exemples qui existent ça et là. Donc on suivra bien sûr cette actualité pour voir un petit peu comment on va pouvoir déployer à grande échelle sur l'ensemble du territoire français cette solution, bien sûr. Allez, avant d'écouter un peu de musique, je ne résiste pas à cette dernière information que j'ai récupérée sur le site de Futura Science qui concerne les mots de passe. On sait qu'au niveau des mots de passe, on est quand même sur quelque chose d'assez moderne, bien évidemment. Il y a nos navigateurs Internet qui enregistrent directement nos identifiants, nos mots de passe. Il y a même des logiciels qui sont spécialement dédiés à la gestion des mots de passe. L'un des plus utilisés de ces logiciels, c'est LastPass, qui revendique 85 millions d'utilisateurs et qui est déployé dans plus de 80 000 entreprises. Donc c'est quand même une entreprise qui est bien déployée dans ce domaine-là. Eh bien, on se rend compte que les cordonniers ne sont pas forcément les mieux chaussés parce que LastPass a été victime d'un piratage massif. Comme il y a les identifiants et les mots de passe de millions d'internautes, eh bien, il y a de quoi trembler. Et selon la société qui a reconnu le piratage, eh bien, il y a un petit malin qui a pris la main sur le compte d'un de ses développeurs et qui a utilisé ce moyen pour accéder à des données sensibles. Alors, il y a un communiqué de l'entreprise LastPass qui explique que nous avons déterminé qu'un élément non autorisé avait eu accès à des portions de l'environnement de développement de LastPass par le biais d'un seul compte de développeur compromis et a pris des portions de code source et certaines informations techniques exclusives. Bref, espèce de communiqué alambiqué qui montre que l'un des plus populaires gestionnaires des mots de passe s'est fait pirater. Ça, je trouve que l'information, je sais pas, c'est un petit peu, voilà, ça donne le sourire pour cette rentrée. On se dit, voilà, finalement, la technologie avance, mais bon, il y a quelques failles. Et c'est peut-être pas plus mal. Je sais pas, on arrive encore à se dire que ce monde est humain. Allez, un peu de musique, on écoute Mister Bison. Mais oui, c'est la rentrée. Allez, à tout de suite sur l'antenne de Graphite. Je vous mets aussi un peu de musique qui réveille hein, sur Graphite, parce qu'on a besoin aussi un peu de nous réveiller. C'était Mister Bison avec The Sacrifice sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine, tous les samedis on va parler du Covid, parce qu'il y a deux informations qui sont parues cette semaine, qui donnent un petit peu de recul ou d'informations un petit peu, enfin qui confirment pardon, certaines tendances. La première concerne la vaccination qui a évité des millions de décès dans le monde. La vaccination contre le Covid a permis d'éviter presque 20 millions de morts sur un potentiel de 31 millions au cours de la première année qui suit l'introduction des vaccins. C'est ce qu'annonce une première étude assez importante de modélisation qui a été publiée, hier dans The Lancet Infectious Disease, donc une revue scientifique quand même assez importante. Cette étude basée sur des données qui provient de 185 pays a duré entre décembre 2020 et décembre 2021, donc dans la phase la plus importante, on va dire, de la vaccination. Cette étude est la première à tenter d'évaluer les décès évités directement ou indirectement à la suite de la vaccination. Alors pour cela, cette étude utilise à la fois les chiffres officiels des morts avec Covid, mais aussi le total des décès sédentaires de chaque pays ou des estimations quand les données officielles n'étaient pas disponibles. Et l'excès de mortalité correspond à l'écart entre le nombre de personnes décédées et le nombre de personnes attendues. Et lorsque ces données officielles n'étaient pas disponibles, eh bien, l'équipe a utilisé des estimations de la surmortalité, toutes causes confondues. Ces analyses ont été comparées à un scénario un peu hypothétique dans lequel aucun vaccin n'aurait été administré. Donc on est vraiment dans un domaine de modélisation. Ce modèle a tenu compte de la variation des taux de vaccination d'un pays à l'autre, ainsi que des différences dans l'efficacité des vaccins dans chaque pays, en fonction bien sûr des types de vaccins qui étaient connus pour avoir été principalement utilisés dans ces régions. La Chine n'a pas été incluse dans l'analyse en raison de sa grande population et de ses mesures de confinement strictes. Très strict, ce qui aurait, nous dit-on, faussé les résultats. Alors, selon cette étude, les pays à revenus élevés et intermédiaires ont représenté le plus grand nombre de décès qui ont été évités, 12 millions sur presque 20 millions, ce qui traduit bien sûr les inégalités dans l'accès aux vaccins dans le monde. Près de 600 000 décès supplémentaires auraient pu être évités si l'objectif de l'OMS de vacciner 40% de la population dans chaque pays jusqu'à la fin de l'année dernière avait été atteint, ce qui n'avait pas été le cas. Et donc le docteur Olivier Watson, qui est l'auteur principal de cette étude, explique « Nos résultats montrent que des millions de vies ont probablement été sauvées en mettant des vaccins à la disposition des gens partout dans le monde ». Cependant, on aurait pu faire plus. Mais voilà, les vaccins ont évité des millions de décès dans le monde. Ça fait du bien de l'entendre dire. On a tellement entendu de conneries sur ce sujet-là que là, enfin, une étude, une première étude apporte des éléments complets sur ce sujet-là, bien sûr. Mais comme je vous le dis, de toute façon, il faut toujours prendre le temps d'analyser tous ces résultats. Donc évidemment, on ne pouvait pas avoir les résultats le jour même, bien sûr. Il faut un certain recul pour pouvoir analyser tout ça, bien évidemment. Et donc cette étude qui est parue hier donne enfin une confirmation de ce qui avait été dit par des gens sensés depuis un certain temps. Deuxième information concerne l'origine de cette épidémie. Il y a deux études qui ont été publiées cette semaine, mardi notamment, dans la revue Science. Alors Science, c'est quand même pas n'importe quoi. Hein. Et ces deux études concluent que cette pandémie de Covid-19 a commencé sur le marché de la ville de Wuhan, en Chine. Ça pointe ainsi vers une très probable origine animal du virus. La première étude est une analyse géographique qui montre que les premiers cas détectés en décembre 2019 se concentraient autour du marché. Et la seconde étude est une analyse génomique du virus. Donc on est vraiment sur le côté génétique au niveau du matériel génétique des virus et une étude des premiers cas. Et ça montre qu'il est très peu probable que le virus ait largement circulé chez les humains avant novembre 2019. En fait, le débat fait rage depuis le début de la pandémie entre les experts qui cherchent encore quasiment 3 ans plus tard à essayer d'élucider le mystère de l'origine du virus. L'un des auteurs de ces deux études, Michael Worobey, qui est virologue à l'Université d'Arizona, il avait signé une lettre en 2021 appelant à considérer sérieusement l'hypothèse d'une fuite d'un laboratoire de Wuhan. On sait qu'il y avait aussi cette hypothèse qui avait été émise, mais les données qui ont été analysées depuis, eh bien, m'ont fait évoluer, dit-il, jusqu'au point qu'aujourd'hui, je pense aussi qu'il n'est simplement pas plausible, pardon, que le virus ait été introduit d'une autre manière qu'à travers le commerce d'animaux du marché de Wuhan. C'est ce qu'elle a expliqué dans une conférence de presse. Donc, du coup, il est revenu un petit peu sur ce qu'il disait en 2021 avec l'analyse, justement, de ces données. Christian Andersen de l'Institut de recherche Scripps, et qui est lui aussi auteur de ces études, il a de son côté déclaré, je cite, « Avons-nous réfuté la théorie de la fuite de laboratoire ? Non. Pourrons-nous le faire un jour ? Non. Mais je pense qu'il est important de comprendre qu'il y a des scénarios possibles et d'autres probables, et que possible ne signifie pas du tout, et que possible ne signifie tout aussi probable. » Bref, il y a vraiment là aujourd'hui, toujours avec cette idée d'avoir du recul sur les éléments, d'avoir une vision un petit peu plus claire. Alors, précisément, la première étude a analysé les lieux de résidence des 155 premiers cas identifiés en décembre 2019. Les chercheurs ont montré que ces cas étaient concentrés autour du marché de Wuhan, contrairement à ceux enregistrés les mois suivants, qui eux coïncidaient avec des quartiers à forte densité, ce qui montre et ce qui illustre un petit peu la propagation du virus. Et parmi les cas étudiés, les personnes n'étaient pas directement liées au marché, résidaient plus près de celui-ci. Ils s'étaient rendus récemment, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils habitaient à côté, mais c'est parce qu'ils s'étaient rendus, et c'est là qu'apparemment il y a eu les premiers cas d'infection. Les chercheurs ont également analysé des échantillons prélevés sur le marché en janvier 2020, par exemple sur des chariots, sur des cages d'animaux, et leur analyse montre que les échantillons positifs au Covid étaient concentrés dans le sud-ouest du marché, précisément là où des animaux vivants étaient vendus. Il y avait des renards, il y avait comme un genre de blaireau, il y avait certains chiens également. L'animal qui aurait servi d'intermédiaire entre les chauves-souris et l'humain, lui, n'a pas été identifié. La seconde étude est fondée sur l'analyse donc du génome du virus qui avait infecté les tout premiers cas. Elle conclut qu'il y a deux lignées de ce virus qui existaient avant février 2020. Et que du coup, ces deux lignées ont probablement résulté de deux événements séparés de transmission aux humains, tous deux au marché de Wuhan, nous dit-on. Et à l'avenir, les scientifiques soulignent qu'il est important de comprendre d'où venaient les animaux vendus sur le marché. Et l'idée, c'est un petit peu de minimiser les risques futurs. Si des zones d'ombre subsistent, donc, les chercheurs ont souligné que les informations disponibles sur les débuts de cette pandémie étaient en réalité très détaillées. Donc, du coup, on a quand même pas mal d'informations sur ce qui s'est passé au départ. Il suffit juste de comprendre. Il y a ce sentiment général qu'il n'y a aucune information qui puisse nous dire quoi que ce soit sur l'origine de la pandémie. C'est simplement faux, explique Christian Andersen. Alors, la Chine a régulièrement été accusée, on le sait, de dissimuler des informations ou de ne pas coopérer pleinement avec les enquêtes internationales. Or, comprendre comment cette pandémie a commencé est crucial pour aider à empêcher, bien sûr, des événements futurs similaires et potentiellement sauver des millions de vies, bien évidemment. Les pandémies n'exigent pas que l'on désigne un responsable, mais elles réclament qu'on les comprenne, explique Christian Andersen. Donc, ces deux études parues cette semaine dans la revue Science indique que le marché de Wuhan a été le point de départ de cette épidémie de Covid-19. Voilà un petit peu les deux informations qu'on a eues sur le Covid. Et je voulais, pour cette émission de rentrée, bien sûr, évoquer ce sujet-là, bien évidemment. C'est la fin de cette émission parce qu'il est déjà 12h57. Je vous remercie de votre attention. Je vous retrouve demain, je vous retrouve samedi prochain. Je suis complètement fatigué. Ça promet. Cette rentrée promet, cette année promet. Je vous retrouve samedi prochain à 12h sur l'antenne de Graphite pour une nouvelle émission, bien sûr, de Biotine. On reviendra, parce qu'on n'a pas eu le temps de l'évoquer aujourd'hui, sur cette alerte des scientifiques qui explique que les compotes que l'on a en sachets, on connaît tous ces sachets de compotes, contiennent plus de sucre que le Coca-Cola. C'est une alerte des scientifiques. On évoquera ça notamment la semaine prochaine dans l'émission de Biotine, samedi à 12h. Et vous retrouvez la rediffusion de cette émission mardi prochain à 10h sur l'antenne de Graphite, 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Dans un instant, la suite de vos programmes sur Graphite. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Merci. Au revoir.